C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL en version hors série pour partager avec vous un nouvel entretien avec un acteur de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est à une archéologue que l'on va donner la parole pour parler d'une découverte extraordinaire ou comment Marie Soresi, qui travaille à l'université de Leiden aux Pays-Bas, est parvenue à retrouver de l'ADN sur un objet vieux de 20 000 ans. Bonjour Marie Soresi.
Bonjour.
Alors, c'est presque une enquête policière que l'on va retracer et je voudrais donc que l'on remonte à la scène de crime. Cet objet dont vous allez extraire l'ADN, vous l'avez trouvé où ?
Alors, ce sont des collègues russes qui travaillent en Sibérie, dans une grotte qui s'appelle la grotte de Denisova, qui ont fouillé ce pendentif.
Donc, ce pendentif, c'est quoi exactement ?
Alors, c'est une dent de cerf, un très gros cerf, qui est un cerf wapiti, qui a été percé, probablement avec un outil en silex, et ensuite cet objet a été suspendu, on pense probablement comme un collier par exemple, ou bien peut-être comme un serre-tête, il y a plein de possibilités.
C'est un objet qui fait quelle taille ?
Il fait un peu plus de 3 cm. Cette dent, c'est une dent et alors en fait elle a une forme particulière, c'est une dent en forme de goutte d'eau.
Elle a été travaillée donc ?
Elle a été travaillée, elle a été percée avec un outil en silex et la partie de l'émail évidemment brillante et le reste de la racine de la dent est mate. Donc c'est un très joli petit objet, très joli petit pendentif.
Alors il a été découvert cet objet au milieu d'autres objets ?
Oui, absolument, absolument. Comme dans la plupart des grottes que l'on fouille, on trouve ce que l'on appelle des assemblages d'objets, avec plein d'objets différents. Et c'est là toute la difficulté, si l'on veut savoir par exemple que faisaient les hommes, que faisaient les femmes dans ces populations très anciennes, en fait, jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Tout simplement parce qu'on n'avait pas la résolution temporelle suffisante. Et si je vous donne un exemple, par exemple, si aujourd'hui... une catastrophe, un tremblement de terre. Tous les objets du quotidien que l'on utilise aujourd'hui vont se retrouver tous ensemble, mais aussi les objets qu'on a utilisés hier, avant-hier, et les objets de nos grands-parents, peut-être. Et il va être très difficile d'arriver à savoir quelle était ma tasse à café et quelle était votre tasse à café, en fait. À moins de faire ces études d'ADN. Et c'est ce que l'on fait, en fait. On a trouvé une technique pour faire ça. Mais pour des objets d'il y a 20 000 ans.
Alors, cette technique, justement, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que vous tentez de la peaufiner, de la mettre en pratique, de faire en sorte qu'elle obtienne des résultats. En quoi la technique sur laquelle vous avez travaillé est différente des techniques qui existaient jusque-là ? Est-ce que même d'ailleurs la recherche ADN était utilisée en paléontologie jusqu'à présent ?
Absolument. Maintenant, depuis le début des années 2000, ça devient de plus en plus courant, les analyses d'ADN. Mais jusqu'à présent, on utilisait l'ADN pour, par exemple, préciser si un ossement était un ossement d'Homo sapiens ou un ossement de Néandertal. Et pour ce faire, on prenait un petit morceau de cet ossement. Là, il y a deux différences. La première, c'est que d'abord, notre méthode n'est pas destructive. Une fois qu'on fait l'analyse, l'objet reste intact. Et d'autre part, c'est que contrairement à ce que l'on faisait jusqu'à présent, c'est la première fois où en fait on a eu cette idée un peu folle d'essayer de rechercher non pas l'ADN de l'ossement lui-même, mais l'ADN de l'humain qui avait manipulé ces objets, qui a manipulé ces objets dans le passé, qui les a portés, utilisés, et qui aurait pu conserver à l'intérieur de l'ossement, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'os est une matière poreuse. Et en plus, les os sont faits de cette matière minérale qui s'appelle l'hydroxyapatite et qui a la formidable capacité de se coller avec les molécules d'ADN. Donc, si je porte un pendentif en os, ma sueur va rentrer dans ce pendentif et va rester dans ce pendentif, peut rester dans ce pendentif, stocké pendant des milliers d'années.
En fait, vous avez appliqué à la paléontologie des méthodes policières, finalement, comme un enquêteur irait analyser un mégot de cigarette ou un verre sur une scène de crime. Eh ben, vous faites la même chose sur un lieu de fouille.
C'est exactement ça. Et au départ, c'est parti d'une idée un peu folle. C'était vraiment une utopie, mais finalement, mes collègues et tous ensemble avec mes collègues de l'Institut Max Planck à Leipzig, le rêve est devenu réalité en fait.
Est-ce que c'est justement parce que cette dent présentait cette capacité de retenir l'ADN que cet objet a attiré votre attention dans ces fouilles et dans cette récolte de plusieurs objets à ce moment-là dans la grotte de Denisova ?
D'une manière générale, on s'est intéressé dès le départ aux objets en os, parce qu'on connaissait cette capacité des objets en os d'attirer et de retenir et de capturer les molécules d'ADN. Et ensuite, on a d'abord commencé à travailler sur des ossements qui étaient, que j'avais fouillés. Et en France, dans deux grottes de la Vienne, le gisement d'Écoté à Saint-Pierre-de-Maillé et le gisement de Quincé, sur la commune de Quincé. On a travaillé dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour se rendre compte qu'en finalement, ça ne marchait pas. Et puis, on s'est rendu compte que l'analyse de ces séquences d'ADN était brouillée, était rendue extrêmement difficile par la contamination avec des ADN récents, c'est-à-dire les ADN des fouilleurs, les ADN de nos collègues en fait.
Parce que les fouilles, elles se font à main nue et donc à ce moment-là, ça contamine les objets retrouvés ?
Exactement. Jusqu'à présent, il n'était pas indispensable de fouiller en portant des gants et je pense que c'est ce que l'on va devoir faire maintenant si on veut permettre toutes ces nouvelles analyses ADN.
Donc quand ces fouilles ont été menées dans la grotte de Denisova, ça veut dire que vous aviez demandé à ce que ces fouilles se fassent de façon protégée ?
Alors les collègues russes travaillent depuis très longtemps avec nos collègues de Leipzig en Allemagne. Donc ils sont très au fait de ces analyses d'ADN. Et d'autre part, ensuite, il y a des aspects un peu particuliers. Cette grotte se trouve en Sibérie, donc. Et la plupart du temps, en fait, dans la grotte, il est plus facile de fouiller en étant couvert, en étant habillé et en portant des gants. Et donc, du coup, cette manière de fouiller dans cette grotte-là permet, en fait, de préserver le potentiel de ces objets pour les analyses ADN.
Donc, cet objet, vous l'avez récupéré quand ?
Cet objet a été fouillé, je pense, en 2019 et ensuite, il a été analysé. Je pense en 2020.
Donc en 2020, combien de temps il vous a fallu ? C'est quoi les étapes ? Une fois qu'on récupère cet objet et que vous lancez votre méthode de recherche d'ADN, vous le faites quoi ? Vous le trempez dans un bain ? Vous le faites parler sous des machines ? Comment ça se passe, une recherche ADN sur un objet vieux de dizaines de milliers d'années ?
Alors c'est un peu le principe de la machine à laver le linge. Ce protocole que l'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on prend l'objet, on va le plonger dans différents bains en faisant monter la température. Et c'est le fait de monter la température en fait qui va permettre aux molécules qui sont attachées les unes avec les autres de se séparer. Et ensuite, ce bain, c'est un produit chimique spécial, c'est des sels de phosphate et de sodium. Et ce phosphate en fait a la capacité d'attirer l'ADN. Donc en fait, en quelque sorte, la température casse les liaisons entre les molécules d'ADN et l'ossement. Et ensuite, le phosphate, il va pénétrer à l'intérieur de l'os et il va attirer cet ADN qui maintenant est libre. Et ensuite, on le retrouve dans la solution, dans le bain.
Dans votre liquide que vous analysez ensuite, que vous séquencez, c'est ça ? Ça passe par des machines ?
Exactement. Et ensuite, c'est ce liquide qui part au séquençage. Et là, ce sont des robots, ce sont des machines en fait qui effectuent le séquençage. Et ensuite vient l'analyse informatique. Et là, ça requiert aussi une expertise tout à fait spécifique et des scientifiques qui sont spécialisés dans ces analyses-là. Et qui sont capables effectivement d'analyser ces banques de données qui sont énormes et à partir de ça de déterminer s'il s'agit d'un homme, d'une femme et quelles étaient les origines de cette personne.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris ? La résolution de cette enquête policière, ça dit quoi ?
Eh bien que cette personne qui a manipulé, qui probablement a porté ce pendentif, était une femme. Et d'autre part, que c'était une femme d'une population d'Asie septentrionale de l'époque. Et c'est la quatrième personne de cette population que l'on connaît désormais.
Donc entre 25 000 et 19 000 ans, c'est ça ?
Alors ça, c'est la datation, c'est exactement ça. Ce sont les dates que l'on peut calculer sur l'ADN lui-même. Ça reste un peu vague. Si on avait fait une datation carbone 14, par exemple, on aurait eu une datation beaucoup plus précise. Mais en revanche, le carbone 14 est pour le moment encore destructif. C'est-à-dire, comme là, il s'agit d'un tout petit objet, pour le dater très précisément au carbone 14 et savoir s'il s'agissait de 20 000 ans ou de 21 000 ou de 18 000 ans, il aurait fallu probablement détruire au moins la moitié, si ce n'est pas la totalité, du pendentif. C'est pour ça que dans ce cas-là, nous avons préféré une résolution moindre. Alors on ne sait pas trop si c'est 21 ou 19 000 ans, mais ce qui nous importe, c'est de dire qu'il y a à peu près 20 000 ans que cette personne avait manipulé ce pendentif.
Je voudrais savoir ce que vous avez ressenti quand cette méthode que vous avez testée pendant de longues années a enfin porté ses fruits. Qu'est-ce que vous avez ressenti? En plus, identifier une femme d'il y a des dizaines de milliers d'années, ça doit forcément faire quelque chose?
Eh bien, quand mes collègues m'ont dit que ça avait marché, j'ai trouvé ça exceptionnel. En plus, j'ai trouvé que c'était fantastique que ce soit une femme. Parce que c'est la première personne, le premier individu que l'on peut connaître grâce à cette technique. C'est donc la première personne que l'on peut relier à un objet spécifique. Et ensuite, ça ouvre tout un tas de nouvelles perspectives pour la recherche dans les années qui viennent.
Alors justement, qu'est-ce que ça change pour la paléontologie de pouvoir désormais dater potentiellement des objets, s'ils sont évidemment fouillés dans de bonnes conditions? Qu'est-ce que ça va changer pour la connaissance que l'on a de nos ancêtres et d'autres espèces qui ont peuplé les continents au fil des siècles?
Alors ce que ça va changer de pouvoir déterminer qui à utiliser quel objet et associer un objet spécifique avec une personne spécifique, c'est que pour la première fois, on va pouvoir poser des questions du type « qu'est-ce que faisaient les hommes, qu'est-ce que faisaient les femmes ?» dans ces groupes-là. Et ce sont des questions que jusqu'à présent, on ne pouvait pas résoudre. Et donc, avec cette nouvelle technique, on va pouvoir commencer à en parler. Et par exemple, dans des situations où on a plusieurs populations humaines qui peuvent se mélanger. Par exemple, avant que Néandertal disparaisse en Europe, ça c'est des questions sur lesquelles je travaille en ce moment, on va pouvoir commencer à se demander est-ce que les femmes néandertaliennes travaillaient les peaux alors que les hommes néandertaliens fabriquaient leurs armes de chasse et allaient à la chasse? Est-ce qu'il y avait une division des tâches ou bien il n'y avait pas de division des tâches? Et est-ce que les premiers groupes d'Homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres directs, eux aussi avaient une division des tâches ou bien n'avaient pas de division de tâches? Quel était le rôle de ces individus et comment leur société était structurée dans ces temps très anciens?
Et est-ce que ça permettra aussi, justement, dans ces mélanges d'objets que vous décriviez tout à l'heure, comme après un tremblement de terre, est-ce que ça permettra aussi de dire cet objet-là appartient à tel groupement ou telle espèce de nos ancêtres, par exemple, ou à un autre, ça c'est plus ancien, ou c'est aussi l'idée de cette découverte?
Absolument, absolument. Pour des moments où on a plusieurs groupes humains qui se superposent, qui peut-être vivent ensemble, c'est une méthode qui va enfin nous permettre de dire qui a utilisé quel objet et qui a fait quoi, en fait. Aujourd'hui, même lorsque l'on trouve des restes humains, ce qui est très rare, c'est très rare d'avoir des restes humains dans les sites auxquels on peut avoir accès. Et même lorsque l'on trouve des restes humains, en fait, l'hypothèse la plus simple, c'est de penser que ce sont les personnes que l'on trouve, le type de personnes que l'on trouve. Si on trouve des Néandertaliens associés à des objets, on pense, le plus simple est de penser que ce sont des Néandertaliens qui ont produit ces objets-là. En réalité, ça peut être, c'est une sorte de raccourci, en fait. Donc, c'est avec ce genre de technique, en fait, qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et pouvoir commencer à reconstruire les modes de vie de ces populations humaines très, très anciennes. Et par exemple, à se demander si ces individus de différentes origines, Néandertal et Homo sapiens, par exemple, ont vécu ensemble, comment est-ce qu'ils vivaient ensemble? Est-ce qu'il y avait des statuts différents entre les individus ayant des origines néandertaliennes et les individus d'origine Homo sapiens? Est-ce qu'ils avaient des rôles différents? Est-ce que les hommes et les femmes avaient les mêmes rôles, pratiquaient les mêmes tâches? Ou bien est-ce qu'il y avait une division déjà des tâches? Donc, en fait, comment fonctionnaient déjà ces sociétés? Est-ce qu'on peut voir des sociétés matriarcales ou des sociétés patriarcales aussi loin dans le temps de l'évolution humaine?
Donc finalement, c'est moins la macro qui est intéressante avec cette découverte que la micro, le fonctionnement de ces groupes et de ces sociétés.
Absolument, absolument. C'est ce que je trouve extrêmement enthousiasmant, c'est que cette nouvelle technique va nous permettre de rentrer dans le détail, dans le quotidien de ces hommes du passé, en fait.
On va devenir plus intime de nos ancêtres.
Exactement, exactement.
Est-ce que Après cette découverte, vous vous dites maintenant, il va peut-être falloir un protocole de recherche pour la façon dont doivent être menées les fouilles. Vous l'avez dit, ils ont pu aussi parler ces objets parce qu'ils ont été fouillés avec des protections. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'à travers le monde, on se dise maintenant, quand on recherche, il faut se protéger davantage ?
Absolument. Ça va, cette nouvelle technique marche lorsque les objets ont été fouillés en prenant des précautions. C'est-à-dire qu'il faut éviter trop de contamination avec notre ADN à nous, l'ADN des fouilleurs. Et donc pour ça, ça veut dire porter des gants, peut-être porter des masques. Et en fait, ça veut dire que dès que le sédiment, la terre qui recouvre l'objet est soulevée, il faut que l'objet soit protégé. Parce que si on parle dans l'environnement de l'objet, par exemple les gouttelettes que l'on produit, que l'on peut produire et que l'on produit en parlant, peuvent contaminer l'objet. Tous nos liquides, les liquides du corps humain, contiennent beaucoup d'ADN. Donc il faut éviter que tous nos liquides, en fait, la sueur, les éternuements, atteignent les objets que l'on est en train de fouiller, c'est-à-dire en fait que les objets soient immédiatement reconnus et scellés, fermés dans des sachets plastiques en fait. Et oui. Ensuite partent en frigo et ensuite puissent partir en laboratoire s'ils ont un potentiel pour les analyses ADN.
Merci à vous Marie Soresi de l'université de Leiden aux Pays-Bas d'avoir retracé pour nous le fil de cette enquête sur les traces de cet ADN retrouvé sur un objet vieux de 20 000 ans. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.